Notre-Dame du Puy fut pendant des siècles un des sanctuaires les plus fréquentés du monde. Et toutes les classes de la société s'y manifestèrent. Ainsi, en plus des pauvres fidèles en quête de grâce pour eux ou pour leurs proches, le Puy vit passer au cours des siècles 6 papes, 14 rois, 2 empereurs, des chefs d'État, des princes, des soldats et des bourgeois. Et ce sanctuaire fut incroyablement comblé de bénédictions et de miracles. On sait que les murs de la cathédrale, jusqu'au XVIIIe siècle, croulaient sous les ex-voto, les béquilles et beaucoup d'autres objets rappelant les grâces obtenues. Mais pour des raisons évidentes de propreté et de sécurité, tout fut enlevé et les murs nettoyés. Tant d'événements liés à l'histoire de la France et du monde se passèrent au Puy que notre curiosité est excitée, et nous avons tellement envie d'en savoir plus. Naturellement, nous devons vous avertir, comme pour tous les sanctuaires très anciens, les légendes qui entourent l'origine de la dévotion mariale au Puy se mêlent le plus souvent à l'histoire. Mais nous allons essayer d'y voir clair et de découvrir la vérité. Tout d'abord, il faut savoir que dans ce lieu, ayant abrité pendant longtemps des dévotions païennes, la dévotion à la Vierge Marie n'aurait pris naissance qu'au 5e ou 6e siècle. Le site du Puy-en-Velay a été habité dès l'âge du bronze, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ. Des routes existaient depuis la plus haute antiquité. Un culte païen au dieu Adidon s'était développé sur le mont Anis. Une pierre, utilisée lors de la construction de la cathédrale, semble indiquer que ce culte aurait été associé au culte de l'empereur par les Romains entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Au début de l'ère chrétienne, il y avait dans la vallée, au pied de ce qui sera la ville du Puy, une rivière, appelée maintenant la Borne, surplombée par le roc Corneille, formant le mont Anis, et le roc d'Aiguille. Au pied de ces rocs, quelques maisons constituaient la petite cité d'Anicium. Dans un document du VIe siècle, l'historien Francorum de Grégoire de Tours de 596, il est fait mention du locus Anicium et du nom de l'évêque Aurelius. Des archéologues ont retrouvé, au sud du rocher Corneille, les restes d'un dolmen entouré d'un temple en l'honneur du dieu Adidon. Après l'édit de Constantin en 313, le temple païen fut détruit et le dolmen se retrouva en plein air. Une petite communauté chrétienne se constitua vers 350 à Galabrume, devenue Espalie, sous l'impulsion du prêtre Marcel, envoyé par l'évêque d'Arverne pour y faire connaître la foi en Jésus-Christ. Un jour, une chrétienne malade et handicapée, se reposant non loin du dolmen, implora le ciel en vue de sa guérison. Soudain, elle vit la Vierge Marie, debout sur la table supérieure du dolmen, entourée d'une couronne d'anges. Un de ceux-ci confia un message à la malade. « La reine du ciel a choisi ce lieu pour en faire son domaine, y recevoir des prières et les exaucer. » Et immédiatement, la malade fut guérie. Un document du XIVe siècle raconte la même chose, quoique un peu différemment. Un premier récit raconte le début de l'évangélisation de la région par deux envoyés de Saint-Pierre, Georges et Front. Le second récit concerne la fondation de la cathédrale. Dans un songe, une noble dame, malade et paralysée, fut appelée à monter sur le mont Anis. Arrivée au sommet, elle s'assoupit sur une pierre du dolmen. Bientôt se manifestèrent tout autour une grande multitude de saints et d'anges et au-dessus la souveraine du monde, la Vierge Marie, mère de Dieu Tout-Puissant, qui lui demanda que ce lieu lui soit consacré. La femme se réveilla, guérie. Forte de sa vision, elle courut trouver son évêque. Tous les deux se rendirent sur le mont Anis et découvrirent un cerf qui traçait dans la neige, tombée pendant la nuit, les limites du futur sanctuaire. L'évêque de Galabrume, Mgr Scuter, fit délimiter aussitôt l'espace par des branches de buissons épineux. Le lendemain, les branches étaient fleuries. Puis, après enquête, l'évêque fit construire un oratoire sur les fondations de l'ancien temple païen près du dolmen. La consécration de cet oratoire en l'honneur de la Sainte Vierge, ancêtre de l'actuelle cathédrale, eut lieu le 11 juillet. À l'intérieur de l'oratoire, on plaça une statue de la Vierge qui devenait la maîtresse des lieux à la place de la divinité païenne. Le sanctuaire était né. De la statue de la Vierge qui fut honorée du 5e au 14e siècle, il ne reste rien. On a juste retrouvé les enseignes des pèlerinages remontant au 13e siècle et sur lesquelles on voit une Vierge assise, couronnée, tenant son enfant sur le bras gauche et un sceptre fleur-de-lysée dans la main droite. Quant à l'évêque Scuter, il quitta Galabrume pour s'établir à proximité du mont Anis. Les pèlerinages allaient commencer. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Au 7e siècle, Anicium devint une ville sainte en raison de la piété qui s'y manifestait. Sa réputation s'étendit dans le monde entier, rivalisant avec les pèlerinages vers Rome, Compostelle ou Jérusalem. Des multitudes de pèlerins se croisaient et Charlemagne fit de ce lieu un centre de collecte d'argent pour le Saint-Siège, au même titre qu'Aix-la-Chapelle, sa capitale, et Compostelle. Des oratoires et des maisons d'accueil, aujourd'hui disparues, se multiplièrent le long des chemins menant au sanctuaire. Charlemagne et trois autres rois vinrent au puits avant l'an 1000. En 990, un concile s'y tint. Un centre intellectuel y fut créé, l'université Saint-Mayol, qui attira une élite intellectuelle venue de partout. Au 8e siècle, à Anicium, on dut procéder à la démolition du dolmen qui rappelait trop les cultes païens. Cependant, on laissa sur place la partie supérieure qui avait porté la statue de Marie et la table en l'encastrant dans le pavé. En souvenir de Marie, la Vierge d'Anis, les malades fiévreux se couchaient dessus pour obtenir leur guérison. C'est ainsi que cette table devint la pierre des fièvres. Un moine allemand ayant annoncé la fin du monde pour le 25 mars 992, une foule de pèlerins encore plus grande que de coutume vint se mettre sous la garde de la Vierge d'Anis. Comme cette année-là, le vendredi saint coïncidait avec la fête de l'Annonciation, le Saint-Siège et les autorités religieuses locales instituèrent un jubilé qui devait se renouveler chaque fois que la coïncidence du vendredi saint avec l'Annonciation aurait lieu. Il y eut 29 jubilés, du premier en 992 au dernier en 1932. C'est au Xe siècle que la ville d'Anis prit le nom de Puy-Sainte-Marie. Au XIe siècle, le pape Léon IX voyait en elle la ville où la dévotion mariale était la plus forte en France. C'est au Puy que le pape Urbain II décida de la première croisade. C'est au Puy que retentit pour la première fois la prière du Salve Regina. On ignore tout de l'arrivée d'une nouvelle statue de la Vierge Marie, une Vierge noire, qui prendra peu à peu la place de la première image de Marie dans le cœur des fidèles. Autour d'elle, le sanctuaire s'agrandit de plus en plus, jusqu'à devenir la basilique d'aujourd'hui qui reflète tout l'art de l'Orient et de l'Occident réunis. En 1794, à la Révolution, la Vierge noire fut dépouillée de toutes ses richesses. Pour symboliser la fin de l'obscurantisme, le jour de la Pentecôte, elle fut jetée par les révolutionnaires dans le tombereau d'un éboueur, puis transportée place de l'Hôtel de Ville. Là, un canonnier lui coupa le nez d'un coup de sabre et l'on vit bien qu'elle était en cèdre. Puis, la statue fut jetée dans les flammes d'un bûcher, en même temps que de nombreux tableaux, des reliques et des objets précieux. On dispersa les cendres dans un champ. En 1794, on avait brûlé les statues, mais on n'avait pas brûlé la foi. Une autre Vierge noire la remplaça, et les fidèles reprirent leur marche vers elle. Toutefois, la confiance en la Vierge du Puy allait prendre des formes un peu différentes, avec de grands rassemblements de prières, des jubilés, des célébrations solennelles du 11 juillet et du 15 août, et de nombreuses processions. La nouvelle statue de Notre-Dame du Puy fut solennellement couronnée en présence de son peuple et de toutes les autorités de la région le 8 juin 1856, puis elle fut ramenée en procession triomphale à la cathédrale. Voici maintenant quelques petites remarques. Le concile d'Éphèse, en 431, proclama Marie, mère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, mère de Dieu ou Théotokos. Jésus reçut de Marie un corps semblable au nôtre et mourut sur la croix pour notre salut. Le sanctuaire du Puy évoque le mystère de l'incarnation rédemptrice. La Vierge Marie y est honorée sous le vocable de Notre-Dame de l'Annonciation, mystère qui fit de Marie la Mère de Dieu. Il est actuellement difficile de dire quels ont été les premiers supports de la dévotion mariale au Puy. Reliques, pierres de l'apparition, statues. Par contre, une chose est certaine. Un texte de donation à Notre-Dame du Puy, daté de 1096, mentionne une statue dont les historiens font remonter la présence au Xe siècle. Cette statue est celle qui fut brûlée en 1794 et que nous ne connaissons que par quelques rares représentations. Peu importe. Sachant tout de même qu'en 1020, Bernard, écolâtre d'Angers, dans son livre des miracles de Sainte-Foy de Conques, évoquait la célèbre ville dont l'ancien nom était Anicium et qu'on appelle le Puy de Sainte-Marie. En 1051, le pape Léon IX, en accordant le pallium à l'évêque du Puy, déclara « La Vierge Mère de Dieu reçoit un culte en l'église d'Anis ou du Puy-Sainte-Marie, plus spécial et plus filial d'amour et de vénération que nulle part ailleurs, dont les autres sanctuaires qui, en France, lui sont dédiés. » Le pèlerinage connut son apogée au XIIIe siècle et pendant la guerre de Cent Ans. Un certain déclin eut lieu avec les guerres de religion, mais le XIXe siècle connut un vrai renouveau avec l'édification de la grande statue de Notre-Dame de France. Le début du XXe siècle vit l'édification du monument à Saint-Joseph et les pèlerinages reprendront. Depuis, la Vierge Marie continue à attirer de nombreux pèlerins.